Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. La COP15, conférence de l'ONU sur la biodiversité, a été lancée la semaine dernière. La première partie s'est tenue en Chine, en ligne et en présentiel. Elle se poursuivra en 2022. Son but, parvenir à une déclaration commune d'engagement des pays à protéger 30% de leurs zones terrestres et maritimes. La COP15, qui s'intercale avec la toute prochaine COP26 de Glasgow, se présente comme une vitrine importante pour la diplomatie chinoise qui entend revendiquer la suprématie morale de la gouvernance environnementale mondiale. Nous verrons ce qu'il en est dans les faits. Notre invité est Alain Carcinti, chercheur économiste au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, CIRAD. Alain Carcinti travaille sur l'économie politique des forêts tropicales et les questions climat et biodiversité depuis une vingtaine d'années. Il est l'auteur, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, d'une étude publiée par l'IFRI, Géopolitique des forêts du monde, quelle stratégie de lutte contre la déforestation. Alain Carcinti, bonjour.
Bonjour Marie-France Chatin.
La forêt, c'est 31% de la superficie totale des terres. Le domaine tropical compte la plus grande part des forêts du monde, 45%. L'essentiel de la déforestation a lieu dans les zones tropicales. Elles sont importantes, les forêts, dans le cycle du carbone. Également, elles abritent 80% de la biodiversité terrestre mondiale, dont les deux tiers se trouvent dans les forêts tropicales. La question des forêts prend une part croissante dans les agendas aujourd'hui. Peut-être, première question, une forêt, qu'est-ce que c'est, Alain Carcinti?
C'est une bonne question parce que il existe des dizaines, voire des centaines de définitions différentes de la forêt. Alors il y a une définition un petit peu, je dirais, légitime, qui est celle de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture. La FAO nous dit une forêt, c'est 10%, c'est une surface d'un minimum de 0,5 hectare. Couverte d'arbres, et que ces arbres occupent, vu de haut, vu par satellite, au moins 10% de cette surface de 0,5 hectare. Mais beaucoup de pays adoptent d'autres définitions, c'est-à-dire certains pays considèrent que c'est 30% de couvert forestier. Et au fond, ces différentes définitions s'expliquent parce que on comprend très vite qu'une forêt au Burkina Faso, ce n'est pas une forêt du Gabon, parce que vous avez des forêts claires, vous avez des forêts très denses, et donc le Gabon aura par exemple tendance à avoir une définition de la forêt avec un couvert forestier plus important, tandis que au Burkina Faso, les forêts claires, même avec peu de couvert forestier, seront considérées comme des forêts. Donc ceci, va poser un certain nombre de problèmes parce que lorsqu'il faudra, pour l'Europe, avoir une réglementation sur la déforestation importée, c'est-à-dire pour essayer de faire en sorte que les produits agricoles que nous consommons n'aient pas été impliqués dans de la déforestation, il faudra bien qu'il y ait une définition de la forêt. Et cette définition de la forêt, si c'est celle de la FAO, elle va poser des problèmes avec beaucoup de pays qui ont une autre définition.
Alors, les grandes forêts, vous en avez nommé quelques-unes, Gabon, on n'a pas parlé de l'Amazonie, évidemment, on va en parler, mais juste pour donner une cartographie et permettre à nos auditeurs d'avoir une image des grandes forêts du monde, Alain Carcinti.
Alors, les grandes forêts du monde, les grandes forêts denses et humides se trouvent sous l'équateur, dans les régions équatoriales, donc ça va de l'Amazonie, l'Indonésie, la Malaisie, bien sûr, le Gabon, le Congo. Plutôt dans les tropiques, donc plus au nord ou plus au sud, nous avons des forêts qui sont des forêts plus claires, qui peuvent être assez denses aussi, qui sont des forêts sèches. Alors en Afrique, on appelle ça des forêts de miombo, par exemple. Et ces forêts donc ont moins d'arbres, ont moins de densité, stockent moins de carbone. Elles n'ont pas moins de richesse en biodiversité, d'ailleurs. Et puis ensuite, nous avons des forêts qui sont beaucoup plus sèches, qui vont être les forêts du Tchad, des forêts sahéliennes avec des arbres beaucoup plus petits. Puis après, nous allons avoir les forêts tempérées et les forêts boréales. Les forêts boréales, ce sont les forêts du nord, notamment du nord de l'Europe, en grande partie. On va trouver la plus grande masse de forêts en Russie, mais également au Canada. La Russie est le pays qui possède aujourd'hui les surfaces forestières les plus importantes. Mais vous allez trouver ça aussi en Scandinavie, au Canada.
Alors, je le disais, la question des forêts prend une place croissante dans les agendas. On va en parler et voir au niveau de la COP15 ce que l'on peut attendre. Alain Carcenti, on parle beaucoup de la déforestation, en particulier depuis l'affaire sans vouloir le stigmatiser, mais c'est une image et ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, depuis l'affaire du groupe sud-coréen Daewoo Logistics qui devait acquérir en 2009 et pour 99 ans 1,3 million d'hectares de terres à Madagascar, cinquième pays le plus pauvre du monde. Un projet qui fut finalement avorté sous la pression de la rue suite à la découverte des objectifs de cette opération. On les rappelle, plantation de palmiers à huile, de maïs, de plantes pour produire des biocarburants à fin d'exportation vers le marché coréen et le reste du monde. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui de l'ampleur de la déforestation ?
Alors, la déforestation semble, disons, globalement, ce que la FAO nous dit, c'est que la déforestation a un petit peu ralenti. Mais elle reste à des niveaux extrêmement importants. La déforestation, il faut rappeler que c'est pas loin de 14-15% des émissions annuelles de gaz à effet de serre, de CO2 plus particulièrement, liées à l'activité humaine. Donc c'est très important. On n'atteindra pas les objectifs climatiques des 1 degré et demi ou des 2 degrés sans vraiment freiner de manière massive la déforestation, voire arrêter la déforestation. Donc la déforestation aujourd'hui, c'est une affaire qui semble un petit peu ralentir, mais pas suffisamment. Elle a ralenti globalement en Asie. Elle a ralenti en Amérique du Sud. Par contre, elle augmente en Afrique. Et en Afrique, elle augmente en particulier en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est aujourd'hui le deuxième pays en termes de taux de déforestation après le Brésil. Pourquoi cette augmentation de la déforestation ? C'est quand même essentiellement lié à deux facteurs qui se combinent. L'augmentation de la population, très rapide effectivement, notamment en Afrique, notamment en RDC, et les pratiques agricoles, qui sont des pratiques agricoles qui sont devenues inadaptées, qui ont été très longtemps adaptées, ces pratiques d'abatis-brûlis, où la reconstitution de la fertilité se fait par le fait qu'on abatte la forêt, qu'on brûle les arbres, et que ça permet effectivement d'avoir une fertilisation temporaire du sol. Et ensuite un système de jachère, puisque c'est un système dans lequel c'est une agriculture itinérante, très souvent. Et ces pratiques agricoles aujourd'hui qui ont été finalement soutenables quand la population était beaucoup moins importante, et qui l'est encore dans certaines régions du monde. Eh bien, lorsque la population devient trop importante, la densité de population devient trop importante, et que l'espace est occupé aussi par d'autres choses, par des aires protégées, eh bien, ça devient totalement inadapté. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que l'agriculture, qui est très largement le principal facteur de déforestation, l'agriculture, gagne sur la forêt. Et ajouter à cela notamment, disons, la fabrique de charbon de bois, puisque c'est avec, on va couper des arbres pour pouvoir faire du charbon de bois, pour pouvoir notamment alimenter les villes, pour tout ce qui est cuisson des aliments notamment, eh bien ça va poser un problème. Donc agriculture et fabrication de charbon de bois sont les deux principaux moteurs, très largement, disons, de la déforestation au niveau mondial. Si on regarde le problème de l'Amazonie et du Brésil, c'est l'agriculture au sens large, dans ce sens où c'est surtout de l'élevage, du grand élevage, du ranching qui est important.
Parce qu'il y a eu des incitations fiscales à l'élevage, au Brésil en particulier.
Puisqu'il y a eu effectivement un certain nombre de politiques qui ont favorisé l'élevage. Et en même temps, quand vous avez des espaces immenses de forêt sur lesquels les droits de propriété ne sont pas très clairs, l'élevage est le meilleur moyen d'occuper l'espace de manière considérable, puisque vous pouvez mettre quelques vaches sur des centaines d'hectares. Et ainsi, c'est une manière de s'approprier la terre dans une situation de manque de clarté des droits de propriété. Donc l'élevage a joué ce rôle, effectivement. En Asie du Sud-Est, vous allez plutôt avoir de la déforestation qui va être liée à des plantations de palmiers à huile, de la petite agriculture également, qui est aussi très importante, notamment au Cambodge, en Thaïlande, au Vietnam. Et aujourd'hui, ce sont les plantations notamment d'arbres pour la pâte à papier, d'arbres à croissance rapide, donc des plantations monospécifiques industrielles, qui sont la première cause de déforestation, au sens où, certes, on remplace de la forêt par des plantations qui sont aussi de la forêt, selon la définition de la FAO, mais on remplace un écosystème naturel par un écosystème artificialisé. Et donc, ça pose des tas de problèmes en termes de biodiversité, bien évidemment.
Vous écoutez Géopolitique.
Alors, Alain Carcintier, on va développer un petit peu tout ce que vous nous avez dit. Ce que je retiens, c'est alors pratique agricole, utilisation de charbon de bois, la question du foncier qui est importante, mais il y a aussi nos habitudes alimentaires. Je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur la part de la croissance démographique dans la déforestation, avec des besoins en nourriture qui évidemment engendrent un phénomène de grignotage des espaces boisés. L'argument de la croissance démographique, il tient scientifiquement?
Oui, il tient. C'est-à-dire que il faut combiner la croissance démographique et les pratiques et les modes de consommation, bien évidemment, si vous voulez. Mais à la fois les modes de consommation, les pratiques, et le nombre joue aussi, forcément. Même si ce ne sont pas forcément les gens qui sont les plus pauvres qui déboisent le plus. Généralement, ce sont déjà les gens. C'est un peu comme les migrations, si vous voulez. Ce sont les gens qui ont un petit peu de capital qui vont effectivement déboiser. Mais malgré tout, c'est quelque chose de tout à fait clair et tout à fait démontré. Y compris d'ailleurs par le fait que souvent des ménages, des chefs d'exploitation, disons, déboisent plus que leurs besoins agricoles, tout simplement parce que c'est une manière de s'approprier la terre et c'est une manière au fond de préparer un héritage pour les 2, 3 ou 4 enfants qu'ils vont avoir. Donc ça, c'est aussi un point très important. C'est pas seulement pour se nourrir, c'est aussi pour préparer effectivement le futur et l'avenir de ses enfants. Donc c'est parfaitement compréhensible et rationnel. On ne peut pas blâmer effectivement les gens pour cela. Tout le problème, c'est que ce sont aussi des gens qui manquent de capital, qui n'utilisent pratiquement pas d'engrais et donc sont obligés, pour répondre à leurs besoins, d'avoir une forme d'extensification, donc d'étendre toujours plus leur culture. Donc on voit bien que la réponse va passer par une transformation profonde des pratiques agricoles avec ce qu'on peut appeler une intensification écologique de l'agriculture. Il faudra trouver des moyens, et il y en a plusieurs. Les engrais sont un moyen, mais ce n'est pas le seul, par des systèmes effectivement d'agroécologie, d'agroforesterie, pour pouvoir produire plus sur des espaces qui resteront limités. Il ne faut pas que l'augmentation, disons, de la production alimentaire ou que la production de charbon de bois se fasse par une extension toujours plus grande des champs sur les forêts et sur des écosystèmes fragiles. Donc il faudra bien passer par une intensification et il faudra aussi probablement trouver les moyens d'accélérer la transition démographique dans les pays où le problème se pose. Essentiellement, ça se pose quand même en Afrique aujourd'hui, puisque dans une bonne partie du reste du monde, la transition démographique, disons, est déjà bien entamée. Elle est aussi entamée en Afrique d'ailleurs, mais elle se fait à un rythme qui est encore insuffisant.
Alors, je retiens, transformation des pratiques agricoles, la question des habitudes alimentaires se pose également de façon patente, Alain Carcintier, dans cette question de la déforestation.
Alors oui, alors par exemple, effectivement, le fait que l'on consomme beaucoup de viande et que l'on consomme de la viande non seulement au Brésil, c'est-à-dire qu'une bonne partie de la déforestation au Brésil, la consommation de viande au Brésil est quand même très largement tournée vers les consommateurs brésiliens eux-mêmes, donc ça c'est une première chose. Par contre, le soja brésilien qui contribue aussi beaucoup à la déforestation et à la conversion d'écosystèmes naturels fragiles comme les cerrados, qui ne sont pas toujours des forêts, mais qui sont à protéger aussi, essentiellement, le Brésil exporte énormément son soja. Ils exportent vers l'Europe pour nourrir nos élevages et vers la Chine et vers l'Asie en général, là aussi pour nourrir tous les élevages chinois, que ce soit de poulets, de cochons, etc. Donc le fait que on ait disons un système d'élevage industriel avec une consommation qui se fait non plus par rapport à des animaux élevés à la ferme, mais généralement dans des complexes industriels avec des nourritures notamment à base de soja qui sont très riches en protéines, eh bien ce sont des choses qui ont fait que la demande de soja a énormément augmenté et que donc la déforestation a augmenté, notamment au Brésil, en Amazonie brésilienne. On peut dire la même chose pour les oléagineux, notamment l'huile de palme. L'industrie agroalimentaire utilise énormément d'huile de palme, qui effectivement a des avantages absolument remarquables.
Lesquels, juste pour les rappeler et peut-être les découvrir avec vous.
Notamment, d'abord, ce n'est pas cher, premièrement, et deuxièmement, la texture est une texture effectivement qui n'est pas forcément liquide, qui peut être semi-liquide, et donc ça permet de mettre ça dans des pâtes, des pâtes célèbres pour faire du cacao, par exemple. Ça la permet également de faire de la biscuiterie industrielle. et de la margarine ou des choses comme ça. Et donc ça, c'est un point, l'industrie agroalimentaire trouve que l'huile de palme est quelque chose d'assez remarquable du point de vue à la fois qualité et prix, et donc c'est entré massivement dans ces chaînes. Par ailleurs, pratiquement une majorité d'huile de palme qui est importée par l'Europe sert au biocarburant. Donc cela, la demande qui augmente en biocarburant, et on peut avoir quelques inquiétudes avec aujourd'hui ce que quand l'aviation civile veut devenir neutre en carbone avec des nouveaux carburants, eh bien on peut se demander si cela ne va pas se faire avec notamment des produits huile de palme notamment, avec comme conséquence une augmentation des prix. Une augmentation des prix veut dire une augmentation des surfaces consacrées à cela, et donc une augmentation de la déforestation. Donc oui, nos modes de consommation ont une influence, et le dernier point, c'est le papier, c'est-à-dire que le fait qu'on consomme énormément de papier, malgré la numérisation, eh bien fait qu'il y a de plus en plus de surfaces qui sont converties pour faire des eucalyptus qui vont servir à faire de la pâte à papier.
Alors, Alain Carcenti, je le disais en introduction, la question de la COP15 qui a démarré cette semaine et qui va se poursuivre en 2022, qu'est-ce que l'on peut attendre de la question des forêts, de la déforestation à travers cette COP15?
Alors, en réalité, dans le débat international, dans la conversation mondiale, la conversation sur les forêts se fait beaucoup plus de manière paradoxale dans la convention climat, à cause justement de ce rôle des forêts comme stock de carbone sur pied, donc qui est immobilisé et qu'il ne faut surtout pas relâcher dans l'atmosphère, et en même temps comme puits de carbone, c'est-à-dire que les forêts mondialement absorbent du CO2, elles retirent du CO2. Quand vous envoyez du CO2 dans l'atmosphère, vous en avez à peu près pratiquement un quart qui va être repris par les forêts et également par les prairies également et d'autres types de végétation, mais la forêt joue un rôle effectivement essentiel. Par contre, également, les forêts, notamment les forêts tropicales, c'est le milieu qui abrite le plus de biodiversité terrestre. Donc, c'est absolument fondamental. Simplement, les instruments aujourd'hui qui ont été développés pour tenter de protéger les forêts, comme notamment le mécanisme REDD+, qui est un mécanisme international qui est discuté depuis, disons, 2005, est un mécanisme qui se traite dans l'enceinte de la Convention climat et moyenne pas tellement dans l'enceinte de la Convention biodiversité. L'enjeu de la Convention biodiversité, ça va être peut-être d'essayer d'augmenter les aires protégées et notamment de mettre plus de forêts dans des aires protégées. Alors, le grand enjeu, c'est que tout dépend de la nature de ces aires protégées. Vous avez des aires protégées qui sont très strictes et qui vont être excluantes pour les populations. Ce sont fondamentalement des parcs nationaux avec des logiques d'exclusion des populations qui vivent ou qui pourraient vivre à proximité ou dans ces espaces. Là, ça pose vraiment des problèmes très importants. Aujourd'hui, est-ce qu'on va augmenter les aires protégées avec ce type effectivement de parcs nationaux? Personnellement, je pense que ce n'est ni souhaitable ni possible, parce que cela poserait trop de problèmes avec des espaces qui sont maintenant très occupés par des populations locales et autres. Mais l'autre question, c'est de savoir si on peut avoir des aires protégées avec notamment beaucoup de forêts dans les aires protégées qui soient des aires protégées de catégorie 5 ou 6, qui permettent justement du développement et qui ne sont pas excluantes, qui intègrent les populations, mais qui simplement essaient de travailler avec les populations pour qu'il y ait une coordination des usages et que le développement soit un développement durable et qu'il ne se fasse pas avec une destruction des écosystèmes naturels et des forêts en particulier. Donc je crois que ça va être le grand enjeu de la discussion. Cette discussion va pas être directement forcément sur les forêts, mais elle va passer par les aires protégées. Et là, il y a un enjeu, puisque l'objectif de beaucoup, notamment qui était discuté au congrès de l'UICN au mois de septembre à Marseille, était: peut-on passer à 30% d'air protégé à l'échelle planétaire, alors qu'aujourd'hui on en est, du point de vue terrestre, on est plutôt entre 12 et 15%.
Alors, RED, juste pour nos auditeurs, donc processus onusien, qui veut dire réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation forestière, et le plus, parce que c'est RED+, qui inclut la gestion durable et conservation des forêts et renforcement des stocks de carbone liés à la forêt. On n'a pas le temps, Alain Carcenti, de rebondir sur la question du multilatéral dans la gestion des forêts dans cette première partie d'émission. On démarrera la deuxième partie avec cela. Dans votre étude, vous dites que ces processus multilatéraux sont un peu une usine à gaz et que, contrairement au reste pour le commerce et autres, la question bilatérale est plus intéressante et ce sera l'occasion de parler de ce que fait la Norvège. On vous retrouve, Alain Carcinti, après le journal. À tout de suite.
Priorité santé. Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique à quelques jours de la COP26 de Glasgow. Notre invité est Alain Carcinti, auteur d'une étude publiée par l'IFRI, Géopolitique des forêts du monde. Quelle stratégie de lutte contre la déforestation? Alain Carcinti, on a terminé la première partie de l'émission sur un début de compréhension sur les phénomènes qui permettent et les structures mises en place pour lutter contre la déforestation. Vous êtes dans votre étude assez critique sur tout le multilatéralisme en matière de gestion des forêts, de lutte contre la déforestation. Vous parlez d'usine à gaz et vous semblez privilégier les accords bilatéraux. C'est peut-être l'occasion à ce stade de parler du rôle de la Norvège.
Oui, ce mécanisme RED que nous avons évoqué est un mécanisme onusien qui, pour l'instant, n'a absolument pas finalement réussi, au fond, à être mis en œuvre. Très peu d'argent a été transféré dans les pays du Sud, de par sa complexité, de par, au fond, les lourdeurs des institutions multilatérales, qui donc sont très très lentes à la fois à décaisser, avec toutes les procédures qu'il faut suivre. L'autre problème, c'est que, effectivement, en multilatéral, vous ne pouvez pas, d'une certaine manière, prendre du recul par rapport, par exemple, aux politiques qui sont menées par les pays. Aujourd'hui, dans les mécanismes de lutte contre la déforestation, qui s'apparentent à RED, le pays qui a été le principal financier de toute cette affaire, depuis maintenant une dizaine d'années, c'est la Norvège. Alors la Norvège a mis des milliards, elle a dépensé au Brésil plus d'1,2 milliard à peu près. La Norvège aujourd'hui intervient en Afrique centrale avec une initiative qui s'appelle un fonds qui s'appelle CAFI, auquel la France participe, l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, avec des promesses aussi d'argent assez importantes, notamment vis-à-vis de la RDC, puisque aujourd'hui la Norvège effectivement discute avec la RDC d'investissements très importants de l'ordre de plusieurs centaines de millions de dollars pour les dix prochaines années, donc c'est tout à fait important. La Norvège également met de l'argent, disons, pour tenter de faire en sorte que la déforestation soit réduite dans de très nombreux pays, que ce soit des pays d'Afrique, que ce soit des pays d'Amérique du Sud, que ce soit l'Indonésie notamment. Alors la Norvège, pourquoi la Norvège fait cela?
Oui, qu'est-ce qui la motive?
Bien, la Norvège est un pays qui est un gros producteur de gaz et de pétrole, et en même temps un pays dans lequel les citoyens ont une fibre écologique très importante. Donc il y a une contradiction entre le fait que la Norvège soit vraiment à l'avant-garde du point de vue des actions et de la réflexion sur le changement climatique, et le fait que la richesse de ses citoyens et du pays soit liée au fait qu'on exporte du gaz et du pétrole, qui bien évidemment contribuent au réchauffement climatique, et donc à l'augmentation du CO2. Dans cette contradiction, les Norvégiens ont dit, on réfléchit, on va pas s'empêcher de continuer à exporter du gaz, même si c'est un débat qui existe en Norvège avec les ONG, une partie de la société civile, mais ont décidé qu'ils allaient effectivement mettre à contribution une partie de leur richesse pour tenter notamment d'inverser les processus de changement climatique, et notamment ils ont choisi la question des forêts. Donc la Norvège est aujourd'hui le principal contributeur financier, qui dépasse de très loin tous les autres, sur ces questions de déforestation. Et donc la Norvège peut faire une chose qu'on ne peut pas faire en multilatéral. Elle peut dire à un pays, on va effectivement vous rémunérer pour des actions qui visent à contenir ou à réduire la déforestation, mais nous mettons un certain nombre de conditions. Ces conditions peuvent être la reconnaissance des droits des peuples autochtones au Guyana, de demander à l'Indonésie d'arrêter, disons, la déforestation légale, c'est-à-dire d'arrêter de mettre des forêts en conversion en palmiers à huile. Cela peut être effectivement avec, en Afrique centrale, effectivement, de demander que l'état de droit soit respecté ou qu'il y ait des actions, par exemple, en termes sur l'agriculture, sur l'aménagement du territoire et autres. De ce point de vue, on peut, en bilatéral, mettre des conditions qu'on ne peut pas mettre en multilatéral, parce que en bilatéral, c'est l'argent des payeurs d'impôts nationaux, et on est beaucoup plus libre, effectivement, à ce moment-là, d'avoir un dialogue beaucoup plus franc et beaucoup plus conditionné à un certain nombre de choses intelligentes.
Alors, Alain Kersinti, pour poursuivre avec les grands acteurs de l'évolution des forêts, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de la Chine, qui exerce une influence majeure sur l'évolution des forêts du monde à travers son commerce et les investissements massifs dans les infrastructures des nouvelles routes de la soie. La Chine qui importe aussi beaucoup de bois d'œuvre.
Oui. Alors la Chine en fait a une influence maintenant depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, de deux manières. D'abord, il faut savoir que la Chine est aujourd'hui le premier acteur pratiquement de l'exploitation forestière tropicale. Si on prend le cas de l'Afrique, il y a une vingtaine d'années, il y avait très très peu d'entreprises chinoises. Elles sont arrivées dans les années 1990 en Afrique centrale. Aujourd'hui, elles sont majoritaires dans la plupart des pays. C'est-à-dire que les entreprises chinoises, les Chinois ont racheté des entreprises européennes, des entreprises libanaises, des entreprises nationales. Quand elles ne sont pas directement en première ligne, souvent, elles contrôlent beaucoup d'entreprises, y compris des entreprises africaines. Elles ont des contrats de partenariat. C'est la même chose en Amérique du Sud, dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud. C'est la même chose également dans beaucoup de pays, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple, aux îles Salomon, ce sont des entreprises chinoises. Aujourd'hui, maintenant, on voit arriver, notamment en Afrique centrale, les Vietnamiens et les Indiens aussi qui commencent à rentrer dans le jeu. Ça, c'est une chose. Donc, il y a eu un basculement de ce point de vue. Les Européens sont beaucoup moins influents, les Asiatiques sont beaucoup plus influents, Chinois en tête. Par ailleurs, alors outre cette prise de contrôle direct d'espace, notamment d'espace forestier, vous avez le fait que la Chine est le principal importateur aujourd'hui, non seulement de bois. Les quantités de bois que la Chine importe sont absolument considérables. Plus de 100 millions de mètres cubes de grumes, par exemple, de bois non transformé en 2020. C'est considérable. Alors ça vient un peu de partout. La Chine importe surtout du bois de Nouvelle-Zélande, du bois de plantation, du bois de Russie, du bois d'Allemagne, du bois de France, des chênes français, etc. Mais également beaucoup de bois venant d'Afrique, venant de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des îles Salomon, etc.
Bon. Ce bois que l'on retrouve dans les meubles que nous achetons dans les
grandes surfaces. En partie, effectivement, une partie de ce bois sera réexportée dans les meubles que nous allons acheter, mais une bonne partie quand même du bois sera consommée localement en Chine, vu l'étendue du marché intérieur. Alors, ce que cherchent les acheteurs chinois, c'est d'acheter le moins cher possible, ce qui évidemment va poser un certain nombre de problèmes. Les Chinois n'achètent pas de bois certifié, par exemple. Un bois certifié, bonne gestion forestière, parce que c'est trop cher. Donc ça pose effectivement un problème sur l'impact que va avoir cette politique d'achat. Par ailleurs, la Chine importe énormément d'huile de palme. Cette huile de palme est produite notamment en Asie et elle contribue à la déforestation. La Chine importe donc toute une série d'autres produits, de caoutchouc naturel et autres, qui sont ces produits agricoles qui potentiellement, pas toujours, mais peuvent être impliqués dans de la déforestation. Et de ce point de vue, la Chine n'a pas encore de politique, par exemple, pour dire nous n'achetons que des produits qui n'ont pas contribué à la déforestation, comme par exemple l'Europe est en train de le faire, en train de se doter d'une politique en la matière. Et le troisième aspect, c'est les énormes investissements des routes de la soie. Il faut comprendre que ce qui augmente les pressions de déforestation, notamment, ce sont les infrastructures et notamment les routes. Les routes, quand vous avez une route qui va traverser effectivement un massif forestier, eh bien, automatiquement, ça va créer un appel d'air. C'est-à-dire que d'abord, ça va réduire les coûts de transport. Donc, la réduction des coûts de transport, ça veut dire plus de pression potentielle pour sortir du bois, pour faire du palmier à huile, du soja et autres. Donc, le fait de faire des routes un peu partout sans étude d'impact, ou en tout cas sans réfléchir à l'endroit où on met, avec le danger que ça représente pour les forêts et les écosystèmes, pose un premier problème. Et toutes les questions des infrastructures, du fait d'augmenter les infrastructures qui diminuent les coûts de transport, ceci va avoir un impact sur, disons, la possibilité d'avoir des exportations de bois, mais également d'autres produits agricoles. Et donc les routes de la soie, qui sont cette augmentation massive des infrastructures un peu partout, mais aussi en Afrique, va avoir des impacts, effectivement, puisque ça va, booster le commerce international. Et le commerce international n'est pas forcément très favorable aux forêts.
Donc on voit que la Chine, Alain Kersinti, externalise déforestation et dégradation des forêts. Et ce que vous citiez là avec les routes de la soie, j'avais l'impression que vous nous décriviez le Brésil avec ce tournant marqué en 1970 avec la construction de l'autoroute Transamazone, la déforestation de la forêt amazonienne. ukrainienne s'est ensuite accélérée à partir des années 90 de manière concomitante avec ce qu'on évoquait précédemment, les incitations fiscales pour l'élevage de bétail. En tout cas, ces routes, les infrastructures sont vraiment un vecteur de déforestation, comme vous nous l'avez bien expliqué. La question, Alain Carcenti, des courses records d'arbres plantés par jour, quel regard vous portez sur ce phénomène?
Bah, disons un regard dubitatif, c'est-à-dire que en général, on sait que les plantations d'arbres, lorsqu'elles sont faites à grande échelle, de manière avec une seule espèce ou deux espèces, c'est-à-dire avec très peu de diversité biologique, et surtout qu'elles se font sans lien avec des dynamiques paysannes, en général, la durée de vie de ces arbres qui sont plantés est très faible. J'ai pu le voir dans plusieurs pays sahéliens où on paye les paysans pour qu'ils plantent des arbres sur des terres domaniales, donc des terres qui appartiennent à l'État, parce que généralement c'est là que ça se fait quand il y a deux grandes opérations de record, effectivement, comme cela. Eh bien, effectivement, les arbres sont plantés, mais comme personne ne les entretient, eh bien, à ce moment-là, les arbres meurent ensuite les troupeaux passent dans ces espaces et donc vont manger les jeunes plants. Donc c'est effectivement très fréquent. La plantation d'arbres, elle a tout à fait son sens, mais véritablement, il faut le faire dans une logique où ce sont les paysans qui plantent des arbres sur leur propre terre, que ce soit leur terre collective, communautaire, ou que ce soit leur terre familiale. Et là, c'est fondamental, parce que d'abord, on peut payer les paysans pour qu'ils plantent des arbres sur leur propre terre, parce que souvent, il y a un problème de financement, il y a un problème de formation, et donc il y a toute une série de choses à faire. Et à partir de là, on peut effectivement avoir des logiques de développement de l'agroforesterie ou avoir des paysans qui commencent à être intéressés par le fait de fournir du bois à des exploitants artisanaux ou des exploitants industriels ou à des exploitants qui vont faire du charbon de bois. Tout le problème, c'est qu'il faut qu'on ait un foncier, c'est-à-dire des droits de propriété suffisamment clairs pour que les paysans plantent. On ne va pas planter si on n'a pas des droits, si on n'est pas sûr de pouvoir transmettre la terre à ses héritiers, à ses descendants. Donc en fait, il y a un lien très très fort entre la sécurisation du foncier pour les paysans et avec le fait qu'on puisse, avec les paysans, reconstituer du couvert forestier et retrouver des arbres. Et ça, c'est un gros enjeu sur à qui appartiennent les arbres qui sont plantés. Et fondamentalement, il y a beaucoup de travail à faire.
La question du foncier, elle se pose essentiellement en Afrique, Alain Carcenti?
Pas seulement, elle se pose aussi au Brésil. Au Brésil, je vous disais en début d'émission, effectivement, que une des grandes explications de l'élevage très extensif, c'est effectivement le fait d'occuper la terre. Le fait qu'on ait beaucoup de mal à avoir un cadastre au Brésil, par exemple, eh bien, si vous voulez, quand il y a une confusion des droits fonciers, une manière de s'approprier la terre un petit peu partout, mais c'est pareil au Cambodge, c'est pareil, effectivement, au Laos ou autre, effectivement, eh bien, planter des arbres, par exemple, ou planter du palmier à huile, c'est une manière de s'approprier la terre ou mettre des vaches, si vous voulez, pour un espace. La mise en valeur agricole de la terre est une manière à la fois coutumière et en même temps moderne de s'approprier, de se créer des droits de propriété. Et notamment au Brésil, en Amazonie, tous les gens qui ont coupé la forêt, mis le feu pour mettre effectivement des vaches, au bout d'un moment, ils espèrent bien, et souvent ils y parviennent, obtenir des titres de propriété en bonne et due forme, une fois qu'il y a prescription de choses qui ont été illégales au départ. C'est une appropriation qui, au départ, est sauvage, qui va être régularisée ensuite. C'est à peu près comme ça que ça se passe partout. Donc, on a tout à fait intérêt à clarifier, effectivement, ces droits de propriété, et notamment, lorsqu'il y a des communautés, de faire en sorte de trouver des formules juridiques qui permettent, notamment, de sécuriser ces communautés à travers des titres fonciers collectifs ou à travers d'autres formules pour éviter l'accaparement des terres et pour, de ce point de vue, éviter ces accaparements sauvages.
Alors, une question qu'on n'a pas encore abordée, Alain Carcenti, c'est le commerce illégal de bois. Il se poursuit à très grande échelle et représente sans doute des dizaines de milliards de dollars par an. C'est uniquement le fait du crime organisé?
Oui, ben non, justement. C'est-à-dire que on a une partie, effectivement, de crimes organisés autour des bois précieux, autour des bois de rose, par exemple. C'est très dans beaucoup, que ce soit en Afrique ou en Asie. On a des réseaux criminels qui ont investi, effectivement, ces bois précieux comme les bois de rose, qui sont essentiellement vendus, notamment en Asie, et qui sont très prisés. On a également, je parlais tout à l'heure, par exemple, au Cameroun, d'un certain nombre de nouveaux acteurs vietnamiens et autres qui exploitent sans permis, et ils visent quelques espèces particulières, comme le tali. Il y a eu un rapport rapport récemment d'une ONG justement détaillant toutes ces filières effectivement à la fois de corruption et à la fois d'exploitation illégale. Donc on a des acteurs, on a un ensemble d'acteurs qui sont des acteurs illégaux, qui sont très bien organisés, qui sont bien capitalisés, etc. En réalité, ceci probablement représente une fraction minoritaire en termes de volume. C'est important en termes financiers, bien sûr. Il y a beaucoup d'argent qui se fait dans ces filières criminelles. Mais en termes de volume, il faut bien comprendre que l'essentiel, au fond, du bois qui est coupé illégalement, c'est du bois qui va sur les marchés domestiques. C'est du bois qui va sur les marchés domestiques d'Indonésie. C'est du bois qui va sur les marchés domestiques de la RDC ou du Congo. Et en fait, ce sont des petits exploitants qui simplement... C'est illégal parce qu'ils n'ont pas de titre. Ils n'ont pas de titre parce qu'au fond, ils ne savent pas très bien où couper, ou ils savent où couper, mais disons que c'est trop compliqué d'aller à la capitale, aller avoir un titre foncier en bonne et due forme, pas un titre foncier, pardon, un permis d'exploitation en bonne et due forme, donc ils vont couper dans des endroits où ils vont s'arranger avec éventuellement les villageois en leur donnant un petit peu d'argent et autres. Et en réalité, quand vous regardez par exemple des marchés domestiques en RDC ou au Cameroun, vous allez vous apercevoir qu'il y a énormément de bois et que tout ce bois, techniquement, il est illégal. Alors bien sûr, si on trouvait un moyen de formaliser, c'est-à-dire de faire en sorte que ces gens puissent avoir plus facilement des permis, qu'ils aillent s'approvisionner dans des forêts communautaires ou dans des espaces familiaux où il y a un accord en bonne et due forme avec le propriétaire coutumier pour couper des arbres, ces gens ne seraient plus illégaux. Donc si vous voulez, nous avons cette ambiguïté sur ce que c'est que l'exploitation illégale. Les chiffres annoncés sont monstrueux. Je pense qu'ils sont beaucoup moins importants que ça en volume si l'on exclut toute cette partie de l'exploitation informelle et de l'approvisionnement des marchés intérieurs.
Alors, Alain Carcenti, il n'y a pas de convention internationale spécifique sur les forêts, je parle sous votre contrôle.
Oui, parce que le Brésil a refusé.
Le Brésil a refusé.
Oui, parce que le Brésil, depuis, c'est une constante, le Brésil a toujours refusé tout ce qui est perçu par le Brésil comme une logique d'internationalisation de l'Amazonie. Et ça, c'est quelque chose avec les gouvernements de gauche ou de droite qui est tout à fait frappant. Disons que dès lors qu'il y a toute tentative, disons, et c'est pour ça que la déclaration du président Macron l'an dernier sur l'Amazonie bien commun avait été effectivement très très mal vécue par non seulement le gouvernement brésilien, mais aussi beaucoup d'une partie de la société civile brésilienne, en disant ce n'est pas un bien commun, l'Amazonie nous appartient. Et donc elle n'appartient pas à la communauté internationale. Donc au fond, il y a une grande méfiance notamment des Brésiliens. Il y avait également cette méfiance avant des Malaisiens, des Indonésiens, mais aujourd'hui ils ont évolué, ils sont d'accord pour une convention.
C'est
toujours le Brésil qui freine.
Et en Afrique ?
Alors en Afrique, il y a plutôt une volonté pour qu'il y ait une convention internationale parce que probablement l'Afrique pense que ça permettrait d'aider, d'appuyer les politiques, de trouver des financements nouveaux, etc. Mais pour l'instant, nous sommes dans une situation de blocage. Quand l'Europe, par exemple, propose des accords volontaires à un certain nombre de pays pour lutter contre l'exploitation illégale du bois, ce sont ce qu'on appelle les accords FLECT ou des accords de partenariat volontaire, accords de partenariat faits avec de très nombreux pays, avec l'Indonésie, avec beaucoup de pays africains et autres, le Brésil a refusé tout net, en refusant que l'Europe se mêle, disons, de déterminer ce qui peut être légal ou illégal au Brésil.
Donc ça n'est pas seulement le fait de Monsieur Bolsonaro aujourd'hui à la tête du Brésil, ses prédécesseurs,
c'est une constante de la politique brésilienne. Voilà, il faut effectivement discuter avec les Brésiliens pour voir ce que ça représente historiquement. Voilà, le Brésil a toujours eu très peur que l'Amazonie échappe à la souveraineté brésilienne à travers différents processus. Et donc quand on parle de la forêt comme d'un bien commun de l'humanité, les Brésiliens tout de suite ferment la porte.
Alors, bien commun de l'humanité ou bien public mondiaux, c'est la même chose, je pense.
On va simplifier, c'est pas tout à fait la même chose, mais on va dire que c'est la même idée derrière. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que probablement c'est une erreur. Les forêts ne sont pas des biens communs ni des biens publics mondiaux, parce que d'abord ce sont des ressources. Ces ressources, ce sont le bois, ce sont les ressources génétiques, c'est les terres sur lesquelles sont ces forêts, et ces forêts sont sous la souveraineté des États. Non seulement elles sont sous la souveraineté des États, ce que le Brésil rappelle d'ailleurs, mais également il faut bien penser qu'il y a des tas de droits de propriété, y compris coutumiers, donc des tas de gens disposent de droits sur ces espaces, etc. Donc on ne peut pas dire que techniquement ça soit des biens communs, puisque ça ne répond pas à cette définition. Par contre, les services que rendent les forêts, c'est-à-dire comme puits de carbone, comme absorbeur de carbone, comme réserve de biodiversité, comme régulateur climatique et régulateur du cycle de l'eau, ces services écosystémiques, eux, on peut considérer que ce sont des biens communs. Mais donc cette distinction entre les ressources et les services fait qu'on ne peut pas parler de la forêt en général comme d'un bien commun. Tout le problème, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut avoir des mécanismes qui permettent éventuellement d'inciter au maintien des services sans empiéter sur la souveraineté des États.
Alors Alain Carcinti, en 15 secondes pour conclure, à la nécessité, bien sûr, on l'a bien compris, de réponses internationales et de politiques nationales plus efficaces, dès lors qu'il s'agit de la forêt. Est-ce qu'on peut conclure à la nécessité d'un agenda commun avec les pays en développement ?
L'agenda commun, il est clair, c'est vraiment d'un agenda entre la sécurité alimentaire et la défense des forêts. Il est absolument clair que les pays ne vont pas protéger leurs forêts en sacrifiant leur sécurité alimentaire ou une partie de leur développement. Donc il faut trouver des solutions. Ces solutions peuvent passer par des incitations et des rémunérations, mais si l'on veut rémunérer intelligemment, il faut rémunérer sur la cohérence des politiques publiques. Pas seulement les politiques forestières, mais aussi les politiques agricoles et autres.
Merci Alain Carcinti. Je rappelle que vous êtes chercheur économiste au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement et auteur d'une étude publiée par l'IFRI, Géopolitique des forêts du monde, quelle stratégie de lutte contre la déforestation. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. À samedi prochain.